podcast de l'UA. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez See More Blue, un podcast rattaché au séminaire de recherche du même nom, qui est basé à l'Université d'Angers. Je m'appelle Béné Meillon et je suis professeure des universités à l'UA à Angers, où je suis responsable scientifique du séminaire de recherche interdisciplinaire See More Blue. Alors pour l'année 2024-2025, je suis entourée pour la conception de ce podcast de deux jeunes chercheuses, Valentine Porcil, doctorante à Nantes Université, et Lucie Véju, étudiante en deuxième année du master Humanité environnementale à la NU également, et stagiaire à l'UA, dans le cadre du séminaire de recherche See More Blue, sur lequel repose donc la réalisation de ce podcast. Dans ce podcast, comme dans le séminaire de recherche éponyme, nous nous intéressons aux perceptions, aux représentations et aux imaginaires de l'eau, des mers et des océans. Pour ce faire, nous analysons des récits, des imaginaires et des représentations qui émergent de la littérature et des arts, mais également des sciences humaines, des études culturelles et des sciences dites du vivant. Nous convions ainsi des chercheurs et des chercheuses dont les travaux relèvent de disciplines variées à venir nous parler d'imaginaires océaniques et aquatiques pour plonger avec elles et eux dans des mondes bleus et pour bleuir ainsi notre compréhension du monde. Pour plus de détails sur les objectifs de ce podcast et le contexte dans lequel il évolue, nous vous invitons à écouter l'épisode pilote que vous trouverez en ligne. Aujourd'hui, cet épisode donc sera mené par moi-même, Béné Meillon, enseignante-chercheuse à l'Université d'Angers et co-porteuse du séminaire See More Blue.
Et par moi, donc Lucie Véju, stagiaire attachée au séminaire See More Blue et étudiante en Master 2 d'Humanité environnementale.
Alors, on est là aujourd'hui pour le deuxième épisode après l'épisode pilote et le premier épisode du podcast See More Blue, dédié aux imaginaires et aux représentations liées à l'eau, aux mers et aux océans. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anna Street, qui est enseignante-chercheuse à l'Université du Mans et qui est rattachée au laboratoire de recherche Le Trois Lames, comme moi, qui est aussi le laboratoire de recherche qui accueille See More Blue, notre séminaire de recherche, co-porté aussi par le laboratoire Temos à l'Université d'Angers. Anna, est-ce qu'on peut te demander de te présenter rapidement et de nous expliquer comment tu en viens à t'intéresser à l'eau dans tes recherches?
Oui, merci de m'avoir invité à me joindre à vous aujourd'hui. En fait, en regardant ce qui se passe sur la scène contemporaine, j'ai commencé à étudier le théâtre des immigrés. Et j'ai vu qu'il était souvent question de l'eau et que souvent le théâtre se déplaçait pour se mettre in situ, donc au bord de l'eau. Parfois, des spectateurs étaient invités à monter au bord d'un bateau pour faire un trajet, pour assister au spectacle sur une île ou une plateforme flottante, et que même les spectacles qui avaient lieu à l'intérieur d'un théâtre sans l'élément aquatique visible comportaient souvent des récits de l'eau, des traversées, etc. Donc j'ai commencé par ce biais-là à m'intéresser à l'eau sur la scène ou l'eau dans les performances sur site, donc site-specific en anglais. Et j'ai commencé à regarder tout ce qui se passait, de faire un archive, à collectionner des instances de performance qui accueillaient l'eau ou qui sortaient ou qui se faisaient dans l'eau ou parfois sous l'eau. Et ça m'a amené à, du coup, me demander ce qui se passe. Qu'est-ce qui change quand un spectacle essaie de prendre comme partenaire créatif cet élément aquatique.
Et donc toi, Anna, à la base, alors je n'ai pas précisé qu'on allait se tutoyer dans le cadre de ce podcast aujourd'hui, étant donné qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble régulièrement, au sein du même laboratoire et parfois au sein du même atelier de recherche. À l'Instituut, donc toi tu es à l'origine spécialiste d'études anglophones, tu es aussi originaire des États-Unis, tu vis en France depuis longtemps et ton domaine de spécialité c'est le théâtre et les arts de la scène et de la performance, c'est ça?
Tout à fait.
Merci beaucoup pour cette introduction. Et ça m'amène à te demander comment le water art, donc le fait d'amener l'eau sur scène, est-il né comme une branche du land art?
Oui. Mais en fait, l'idée de prendre la nature en partenariat créatif n'est pas nouveau. Donc déjà dans les années 70, on a remarqué ce merveilleux mouvement de land art où il y a des artistes qui jouent avec le paysage, avec les formations naturelles et parfois aussi déjà au bord de l'eau, dans les rivages et les littoraux. Et puis, moi, je constate que depuis 30 ans, il y a eu une explosion, un tournant aquatique dans les arts qui peut donc mériter le nom « water art », où on est vraiment en train de s'immerger complètement dans l'eau ou de vraiment rentrer en partenariat de façon plus ou moins spectaculaire avec cet élément-là. Donc, je pense, par exemple, aux sculptures aquatiques, à la danse dans l'eau, mais aussi à nos capacités techniques maintenant à emmener vraiment des quantités très importantes de l'eau dans nos espaces de production. Et puis, je pense que ce tournant aquatique, enfin, je suis même sûre, n'est pas du tout unique aux arts de la scène. On peut constater un tournant aquatique dans absolument chaque discipline, que ça soit scientifique ou de sciences sociales.
Oui, absolument. Anna, en fait, moi, j'ai découvert des travaux avant de rejoindre le 3LAM et l'Université d'Angers. Parce que je m'intéressais, en fait, je lançais un petit peu le gros programme Silver Blue, et c'est là que j'ai découvert le magnifique programme de recherche Performing Water que tu as dirigé à l'Université du Mans. Est-ce que tu voudrais bien nous dire quelques mots de ce programme, ce que vous avez fait dans le cadre de ce programme?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le MSH Ange Guepin qui nous a donné plusieurs financements pour le projet Performing Water. Et en fait, du moment où on a eu notre premier financement, c'était le confinement. Le Covid a frappé et du coup, on ne pouvait rien faire comme on avait prévu. Et au lieu de juste attendre un an que ça se passe et reprendre le programme comme prévu, on a décidé d'adapter nos activités au confinement, comme a fait le reste du monde d'ailleurs. Donc, on a transformé nos rencontres en webinaires. Et on s'est tourné vers une plateforme en ligne. Donc, on a utilisé le financement pour donc construire un site et réaliser des productions numériques. Donc, on a aussi fait des podcasts. On a voulu mettre en dialogue des artistes et des chercheurs pour parler de leurs pratiques. Et puis, on a aussi eu l'opportunité de collaborer avec des étudiants en INSIM et à l'École de Beaux-Arts du Mans, pour créer à deux reprises des expositions immersives. Donc, on a voulu plonger justement des participants dans un environnement qui ressemblait à un environnement aquatique, notamment pour leur mettre face à des sculptures aquatiques de Jason et Caris Taylor, qui nous a accompagnés.
Et concrètement, comment avez-vous inventé un dispositif immersif?
Donc, on a utilisé le théâtre qui se situe sur le campus du Mans. Donc, on a plongé dans une lumière bleue avec une ambiance sonore avec 18 enceintes tout autour. Et puis, on avait des sculptures plus que taille humaine projetées sur les immenses écrans des créations de Jason et Caris Taylor. Et donc, on avait l'impression, enfin, on était tout seul, entouré d'un mouvement tout autour de nous, avec des petits poissons qui
traversaient
des structures.
On avait aussi jaillissé un espace.
Reproduction puis plusieurs ateliers. Des sculptures qui jaillissaient.
Il y avait un atelier avec un jeu vert.
Et puis plusieurs ateliers.
Il y avait un atelier avec un jeu vert.
Un casque où
il y avait un time-lapse. Si vous connaissez.
Il y avait
si vous connaissez pas, il faut tout de suite aller sur Google pour regarder.
Si vous connaissez
regarder.
Et si vous connaissez pas, il faut tout de suite aller sur Google pour regarder.
Des sculptures, des musées carrément.
Et subaquatique
sa particularité.
Et sa particularité que il s'accrochait à avec l'intention que ces espèces aquatiques viennent s'accrocher, se transformer avec la vie aquatique. C'est incroyable, passionnant, et puis aussi
les images, qu'on pouvait faire circuler sur un grand écran, etc. Donc en fait, on a envisagé ce projet-là parce que Jason disait qu'il déplorait le fait que la plupart de ceux qui arrivent à rencontrer ces hommes sont obligés de les faire par le biais des écrans et que c'est censé être une expérience collective. Et vraiment, c'est très compliqué de vraiment apporter...
Oui, et en même temps, le dispositif qu'il met au point fait que ces œuvres ne sont accessibles qu'à des plongeurs, puisqu'elles sont installées au fond de l'océan. Et donc, pour aller visiter, ce sont des musées sous-marins qui nécessitent quand même un accès qui n'est pas donné à tout le monde, peut-être.
Et dans des endroits très lointains.
Donc, ça pose aussi, évidemment, des questions. C'est pas mal de le rendre...
C'était vraiment un privilège et fascinant de travailler avec donc, ceux qui avaient des compétences en design sonore et en VR et tout ça. C'était très chouette. Et puis, on a associé nos étudiants aussi qui ont créé des ateliers pour des enfants et des familles qui ont visité l'exposition, des petits jeux de mine à la pêche ou de pêche au canard et ce genre de choses pour les sensibiliser avec... les données scientifiques.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. En ce moment, est-ce que tu as d'autres projets en cours avec les arts de la, en lien avec les arts de la performance bleue?
Oui, alors je suis en train de terminer un projet qui s'appelle Aqua Art, qui est financé par la MSH Périnord en partenariat avec des collègues en sociologie de Nantes et de Lyon. Et l'idée, c'était de mener des enquêtes au territoire de la Confluence, donc c'est la pleine commune où se passe le canal Saint-Denis et aussi la vieille mer qui est majoritairement enterrée, mais qu'on essaye maintenant de découvrir au moins en partie, comme on fait souvent avec nos rivières en ce moment, et l'endroit où ces deux rives donc, se jettent dans la Seine. Et donc, on a identifié des opérateurs culturels et administratifs pour faire des entretiens qu'on a ensuite analysés de façon quantitative et qualitative. Et moi, j'ai eu le plaisir d'assister à tous les événements culturels et artistiques qui ont lieu cette année dans ces espaces pour étudier le lien, enfin, le rôle de l'art et la culture dans la fabrication des espaces aquatiques urbains.
Merci beaucoup.
Est-ce que c'est lié à... En fait, alors moi, je connais ton projet Hydro Art, Hydro Art, Aqua Art, Hydro Art. On est sur deux projets différents, mais qui sont...
Mais c'est-à-dire que Performing Water et Aqua Art m'a sans doute aidé à obtenir du coup un financement plus pérenne pour un projet donc, qui démarrera en février, qui s'appelle Hydro Art. C'est un projet donc de JCJC de l'ANR et qui continuera à se soucier du rapport entre l'eau et les arts. Là, on va agrandir le périmètre. Donc, on va regarder l'espace francophone et anglophone sur les 30 dernières années. Et on va se concentrer vraiment sur les œuvres qui entretiennent un partenariat avec l'eau, donc plutôt des performances live ou avec une participation dans l'eau.
Et tu es venue récemment présenter tes travaux lors de la journée de lancement de notre séminaire de recherche Seymour Blue. Tu nous as parlé d'énormément d'artistes qui font des choses vraiment passionnantes. On souhaitait te demander de nous reparler peut-être de quelques-unes de ces œuvres, de leur démarche, du dispositif. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de cette œuvre qui s'appelle Hollow Scenes et où on voit bien qu'il y a quand même un dispositif qui associe un sentiment d'urgence lié à la montée des eaux, peut-être?
Oui, tout à fait. Donc, oui, vous avez remarqué, il y a un jeu de mots déjà dans le titre. Donc, c'était en 2017, donc en lien avec la discussion, est-ce qu'on change d'époque? Est-ce qu'on va dire que maintenant on est rentré dans l'Anthropocène? C'est l'ensemble Early Morning Opera qui est dirigé par Lars Tejan, qui a monté ça à plusieurs endroits, mais l'installation dont je vous ai parlé a eu lieu en 2017, dans Times Square, New York, et qui est d'autant plus frappant, c'était peu après que Trump s'est retiré du Climate Accord de Paris. Et l'installation a vraiment dans l'espace de Times Square était frappant puisque Times Square, comme on le sait tous, est absolument plaqué de grands panneaux publicitaires qui ne rappellent pas forcément l'écologie à premier abord et mais qui est très très vivant, presque impossible à concentrer le regard sur une seule chose. Il y a un énorme aquarium qui était monté en contraste, mais en même temps qu'il avait l'air de s'intégrer tout en ressortant de ce panoramique de grands panneaux publicitaires et qui bougeait, mais qui était plat, comme un écran, mais en fait, c'était en trois dimensions.
Oui, à la fois il se fond dans le décor et en même temps il en ressort complètement parce qu'il est en trois dimensions, puis c'est pas un écran qui est animé de façon artificielle, il y a des danseurs au milieu
C'était très troublant.
de cet aquarium.
Et puis, des spectateurs n'étaient pas prévenus. Donc en fait, c'était des passants qui venaient à Times Square et qui restaient complètement annubulés devant ce spectacle et qui essayaient à comprendre ce qu'ils voyaient, ce qui se passait. Donc c'était aussi cet effet de surprise, quelque chose de très flou que Lars Vin a voulu provoquer. Et donc l'aquarium commençait vide et se remplissait très lentement. À vrai dire, ça prenait 1 minute et demie. Donc, ça peut sembler rapide, mais l'effet ressenti était quelque chose d'assez graduel. Et dans l'aquarium, il y avait un acteur qui essayait d'accomplir une tâche quotidienne. Par exemple, plier le linge, ou faire le lit, ou laver le sol, ou jouer du guitare. Avec l'eau qui montait à la cheville et puis aux hanches. Et le jeu était d'essayer de continuer à accomplir la tâche tout à fait banale sans prêter attention, sans vraiment avoir l'air du tout inquiet ou paniqué au fait que... Oui, voilà. Donc, c'est tout à fait justement symbolique qu'on est tous en train de faire comme si il ne se passe rien alors que l'eau est en train de monter. Et puis, ça arrive tout en haut de l'aquarium. Donc, du coup, à ce moment-là, l'acteur ne peut faire autre chose que nager, flotter. Et ça donne lieu à une chorégraphie très poétique. Et ce que je trouvais super intéressant, alors que pour les spectateurs à l'extérieur de l'aquarium, il y a un sentiment de claustrophobie, de panique, alors que pour les acteurs à l'intérieur, ils racontent tous que c'était un moment de paix absolue et de beauté et de silence. Donc il y a ce décalage entre une certaine chorégraphie très beau que l'eau permet et ce message de catastrophe imminente. Et puis après cela, il y a toute une série. Donc l'aquarium est vidé et il y a un autre acteur qui remplace le premier qui entreprend à nouveau une tâche.
Et tu as parlé du jeu de mots Hollow Scenes. Est-ce que tu peux l'expliciter peut-être, parce qu'en plus on le prononce en anglais, est-ce que tu peux l'expliciter
Oui.
peut-être pour nos auditories?
Donc on peut le prononcer pour les Français Holocène. Donc
Oui, ça
l'idée
marche.
de le mettre en scène, le changement de ère géologique. Voilà. Donc, ça a été le sujet de beaucoup de débats. Je crois que finalement, on n'a pas opté pour Anthropocène. Mais en tout cas, il reste tout à fait valable comme thème de spectacle, la manière dans laquelle l'espèce humaine a interagi avec la nature et puis continue à faire comme si il ne se passe rien.
Donc, une petite précision, tu as remercié certains des financements que tu as obtenus sur un JCJC de l'ANR. Donc, petite précision, JCJC, ce sont des programmes qui sont dédiés à des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Et l'ANR, il s'agit de l'Agence nationale de la recherche qui finance une grosse partie des programmes de recherche en France aujourd'hui.
Merci pour ces précisions sur Holocene, ce qui était effectivement très puissant comme image. Mmh. Moi, j'ai beaucoup aimé voir les images que tu nous as présentées pendant le séminaire. Il y a un autre spectacle, enfin une autre performance que tu nous as montrée qui s'appelle Drown Requiem, qui met aussi en scène des humains sous l'eau, mais de manière un peu différente. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, tout à fait. Donc, Drown Requiem a eu lieu en Danemark par l'ensemble des musiciens qui s'appelle Between Music. Donc, ils ont passé plus de 10 ans, plutôt 14 ans, à expérimenter avec la fabrication, carrément, des instruments qui fonctionnent et qui fonctionnent bien dans l'eau. Donc, c'est pas quelque chose qui se marie facilement, les instruments de musique et l'élément aquatique, mais ils ont réussi donc à faire fabriquer des instruments souvent des meilleurs fabricants d'instruments. Ils ont vraiment fait des partenariats assez pointus avec ceux qui maîtrisent ce genre de choses. Et en partenariat avec l'ONG United for Rescue, ils ont donc tourné ce film qui se passe entièrement dans l'eau, où on voit des musiciens couler et puis jouer leurs instruments au fond de la mer. Donc ça a été tourné, enfin le groupe vient de Danemark, mais ça a été tourné en Méditerranée. Et ils ont choisi comme morceau l'Aude à la joie de Beethoven, qui est l'hymne de l'Union européenne. Donc ils ont commencé cette campagne afin de financer un navire qui s'appelle CI, donc écrit de la même façon que See More Blue, donc CI4. Et ils ont réussi, avec 15 minutes de visionnage sur 80 pays différents, en moins de 4 semaines, réussi à rassembler 440 000 euros pour acheter le nouveau navire, qui a comme donc mission de venir en secours à ceux qui sont en train de faire des traversées. Donc c'était vraiment une œuvre qui décrit la transformation de la Méditerranée en immense cimetière flottant et de sensibiliser le besoin d'action politique pour cette crise migratoire.
Bah, c'est une œuvre qui met en scène aussi, enfin qui nous rappelle, là tu parles de la Méditerranée, mais surtout l'océan Atlantique, qui est quand même un immense cimetière marin, qui lors du passage du milieu, de la traversée du milieu, a donné lieu à un nombre épouvantable et assez insoutenable de personnes qui ont fini par-dessus bord, d'esclaves qui voilà, n'ont jamais été acheminés jusqu'aux Amériques. Et ça, on le sent dans le... Enfin, c'est une œuvre qui prend vraiment, vraiment aux tripes. Donc, il y a ce lien quand même. C'est pas juste par rapport à une situation contemporaine de la Méditerranée. Dans l'œuvre, il y a une conscience quand même que...
Et en tant que chercheuse, c'est un des aspects qui m'interpelle le plus, qui est aussi partagé par la performance de Holocène, c'est cette capacité qu'a l'eau de à la fois nous émerveiller et de nous effrayer. Donc l'eau est le symbole de la pureté, de la vie, et en même temps, c'est le lieu de beaucoup de tragédies et ça peut aussi être extrêmement dangereux. Donc, en tant que chercheuse des arts de la scène, essayer de comprendre comment on peut monter une œuvre qui nous touche profondément par son côté esthétique, qu'on trouve extrêmement beau, et en même temps nous provoque un sentiment d'effroi et de panique et d'urgence, et quelque chose qui est pas spécifique à l'eau, mais que l'eau peut faire peut-être plus facilement que d'autres milieux.
Mais je pense que ça nous parle beaucoup. Enfin, là, au moment même où on parle, on est face à la Loire et on jouissait tout à l'heure de la beauté du paysage, de, voilà, comme c'était un lieu agréable pour travailler, la MSH de Nantes. Mais bien sûr, on est à Nantes qui a quand même une histoire, hein, qui est fondée sur l'histoire de la traite négrière. Et donc, on sait très bien tous les bateaux qui sont partis de Nantes. Et ça m'intéresse cet endroit où, en fait, ces œuvres, elles sont à la fois, elles s'inscrivent contre l'oubli de ce sur quoi reposent nos civilisations, notre rapport à l'eau, la conquête des océans et tout ce qui va avec. Et en même temps, c'est cet endroit où, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, hein, Lucie est arrivée en disant en ce moment, elle est sous l'eau, mais c'est un petit peu la maladie du siècle, la grande accélération qui caractérise le dérèglement climatique qui a lieu, qui se produit à un rythme de plus en plus effréné. Et bien sûr, le résultat est le reflet de nos rythmes de vie, hein, qui ont subi ces grandes accélérations. Et on voit bien au travail, moi, ça me fait quelque chose, en fait, de voir combien, alors qu'on travaille dans ce séminaire sur les imaginaires aquatiques, la fréquence avec laquelle les collègues avec qui je travaille me disent « je suis sous l'eau, je suis sous l'eau, je suis sous l'eau ». Et on a aussi ce sentiment d'urgence et cette inquiétude, bien sûr, qui est liée, qui est là, qui est présente et qui est liée à cette montée des eaux, à cette crise écologique, à l'avenir de la santé des océans. Tout ça, c'est complètement entremêlé d'une façon qui, pour moi, ressort de façon esthétique dans les œuvres que tu étudies. On voit que c'est quelque chose que les artistes prennent à bras le corps, en fait.
Oui, tout à fait. Et je crois que c'est intéressant de voir comment des pratiques artistiques sont en train de changer face à ce monde qui est très accéléré, mais forcément en voie de disparition. Donc, il va falloir qu'on trouve à s'adapter aussi dans nos pratiques de recherche, d'imaginer comment faire la recherche autrement. Mm-hmm. Et je m'inspire des gens en voyant comment on peut faire une pratique artistique autrement.
Et ça m'amène à te poser la question de cette œuvre qui s'appelle Ice Watch, où peut-être on retrouve aussi quelque chose de très anxiogène, et en même temps, toujours un geste artistique dont on ne peut s'empêcher de trouver qu'il est beau, mais c'est quand même une œuvre qui met très, très mal à l'aise.
Oui, tout à fait. Donc, Ice Watch, c'est une installation de Olafur Eliasson qui a eu lieu dans plusieurs villes européennes en même temps en 2014, et puis ensuite à nouveau à Paris en 2015 et puis à Londres en 2018. Donc, ça a eu une vie de plusieurs années. Et en fait, l'idée du départ, c'est que la plupart de nous se sent très éloignés de l'Arctique. Donc, on nous le dit, on le sait, mais on n'a pas l'expérience personnelle de ce qui se passe avec la glace en train de fondre. Et Ice Watch, c'était une tentative de nous rapprocher, de nous emmener sur une échelle personnelle l'expérience de cet effondrement. Donc, le dispositif de Ice Watch était d'emmener 12 énormes blocs de glace de l'Arctique et de les disposer dans nos centres-villes, configurés un peu dans la forme, d'une horloge, et avec évidemment la connotation que time is running out, il faut qu'on se dépêche de prendre connaissance de la situation. Du coup, on pouvait en temps réel sentir, voir, toucher, goûter la glace en train de fondre devant nos yeux. Et il y a des enfants qui se sont grimpés dessus, on pouvait s'allonger. Il y a eu un tas de performances de danseurs qui sont venus faire un numéro à l'intérieur de ces blocs de glace, etc., dans différentes villes. Et donc, l'espoir était qu'un contact tactile avec un phénomène planétaire pouvait nous toucher davantage que les données scientifiques.
Cette idée de contact tactile, ça me fait penser à peut-être une dernière œuvre qu'on pourrait évoquer, dont tu as parlé pendant le séminaire, qui est Les Vagues d'Élise Vigneron, avec le théâtre de la tempête, où on voit des personnages sous forme de marionnettes qui sont pris dans un système aquatique qui donne vraiment cette idée d'intériorité, de contact intime avec l'eau. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu aussi ?
Oui, absolument. C'est aussi un exemple d'une grande beauté où on est emporté par la nostalgie que peut provoquer l'eau. Donc, Élise Vigneron a façonné des marionnettes de glace de la taille des enfants. Donc, il y en avait 5 sur scène, il me semble. Et c'est des membres et parties du corps fait en glace qui sont reliées par l'armature en acier et donc qui sont articulées. Et,
c'est des pantins.
C'est des pantins, voilà. Donc, il y a tout un système très élaboré de fils qui sont tirés par des acteurs humains qu'on voit aussi et qui font des chorégraphies, presque les danses avec ses enfants. Ils les déshabillent, ils les emmènent au parc et puis on entend le roman de Virginia Woolf et Vague qui est raconté. On voit la vie de ces enfants qui est traversée par le récit. Et évidemment, dans l'espace d'une heure, ces êtres commencent à disparaître.
Ils fondent. Sur scène.
Oui. Et on s'y attache. Enfin, des visages sont vraiment faits de façon réaliste. Il y a un peu de maquillage, donc on a vraiment l'impression de regarder les êtres disparaître devant nous. Et des acteurs qui donc, tirent les fils continuent à interagir, à tourner, à danser avec ces êtres qui deviennent une énorme flaque d'eau.
Et précisément, ça m'amène à la prochaine question qu'on voulait te poser, qui est vraiment sur ce travail que font les artistes d'amener l'eau dans toute sa matérialité sur scène. Et il y a vraiment un travail, pas que de co-composition, mais même de co-performance, c'est-à-dire qu'en fait, la performance, elle est en partie souvent dans ses œuvres liées à l'eau, dans toute sa matérialité. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup d'artistes, là, dont tu nous parles, qui mettent en scène ces changements d'état de l'eau, de solide à liquide ou à peut-être certains gazeux. Est-ce que tu peux nous parler de ça, du rôle de l'eau sur scène?
Oui, tout à fait. Donc, c'est exactement ça, en fait, qui nous intéresse et l'idée que nos façons d'apprécier ou d'interpréter ou analyser la pratique artistique a beaucoup changé avec justement la crise climatique et l'idée, enfin la culte de l'artiste et l'idée qu'une œuvre d'art est la construction d'un seul être, une espèce de génie qui donc n'est pas forcément en rapport avec l'environnement social et naturel est en train de changer. Donc, il y a nos questions, enfin, nos idées, il y a nos présupposés sur ce qui est beau, qui est de plus en plus remis en question par la prolifération de catastrophes naturelles, qui peuvent parfois être assez esthétiques. Et je pense des photographies des marées noires qui peuvent être extrêmement attirantes pour l'œil.
Ouais, on est du côté un petit peu de ce qu'on appelle en éco-critique le toxique sublime.
Oui, exactement.
C'est à la fois toxique et en même temps, il y a quelque chose de sublime esthétiquement. Oui. Ça rappelle un peu les codes du sublime, mais on est dépassé par quelque chose qui est toxique.
Absolument. Donc ça nous trouble beaucoup dans l'appréciation artistique d'une œuvre. Et puis aussi cette urgence aujourd'hui de considérer que non, l'artiste n'est jamais seul. Et qu'il y a la matérialité de la matière qui aussi devrait être reconnue comme faisant partie prenante de chaque création. Donc, il y a de plus en plus d'artistes qui accueillent pleinement ce nouveau regard et qui essayent, du coup, de mettre en avant leur partenariat avec le naturel.
C'est ça, et c'est un partenariat qui est plus qu'un partenariat, c'est aussi mettre en scène notre interdépendance avec l'eau. Ce qui est beau, c'est qu'il y a quand même un geste, c'est plus du tout la vision de l'artiste qui est un génie, qui maîtrise et qui compose hors sol. Bon, là, c'est hors eau. Ce sont des artistes. Enfin, il y a quelque chose d'une grande modestie aussi dans le fait de se dire « je vais travailler ». Enfin, ça pose des contraintes quand même qui sont énormes au niveau technique, qui limitent beaucoup ce que peut ou ne peut pas faire le corps de l'artiste, le corps d'ensemble.
Et c'est une autre conception aussi, je pense, de l'œuvre même, qui n'est pas destinée à avoir une forme finale qui termine dans un musée et que personne n'est censé toucher. Là, c'est vraiment l'idée de collaboration, processus ouvert et accueil, et même une adaptabilité qui va être le mot-clé pour notre survie, qui veut absolument se laisser transformer et s'adapter avec les changements climatiques.
Justement, est-ce que cette notion d'adaptabilité, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça rentre dans la notion que tu as abordée pendant le séminaire, qui est celle de capacité aquatique, que j'ai beaucoup aimée? Tu disais que l'eau peut promouvoir des capacités aquatiques chez les humains. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de ces fameuses capacités aquatiques?
Oui, ben je suis très convaincue par la thèse de Miel Chandler et Astrid Animas, qui dit que c'est justement les propriétés chimiques de l'eau, donc la gestationnalité, qui peut être un modèle pour nous de penser comment interagir. Donc là, aujourd'hui, enfin depuis toujours, mais enfin de plus en plus aujourd'hui, on parle de la capacité d'agir de certaines habitats naturels. J'étais au théâtre de la Concorde la semaine dernière où a eu lieu le procès de la Seine et l'idée de donner à la Seine une personnalité juridique. Et je trouve que ces débats sont effectivement très importants. Ici, la loi a déjà obtenu son statut. Et d'ailleurs, en regardant les œuvres, j'étais plutôt partie sur cette idée de prêter à l'eau une agentivité, une propre responsabilité créative, etc. Et je trouve de plus en plus que ça, c'est plutôt nous qui essayons de imposer nos catégories, nos structures sur le reste, comme on sait très bien faire. Et que non, si on laisse l'eau vraiment servir de modèle, on se laisse guider par cette matière-là, on est plutôt dans une collaboration, une idée de on laisse la potentialité s'ouvrir à nous et on arrête d'essayer de enfermer les êtres dans la case des entités avec des propriétés juridiques ou pas, et que c'est plutôt un modèle où on va en permanence se transformer, s'adapter et jouir de nos potentialités.
Merci donc pour ces précisions sur cette notion de capacité aquatique, et ça m'amène à te demander aussi comment les artistes sur lesquels et avec lesquels tu travailles passent par des fins esthétiques pour amener sur la table des questions qui sont plutôt d'ordre éthique, voire politique.
Oui, en même temps qu'elles sont artistiques, on remet pas en question le caractère artistique de leur démarche, mais c'est vrai que c'est aussi un art qui est engagé, et finalement c'est un art qui est politique. Enfin, je pense qu'on est dans une sorte d'artivisme.
Oui, justement, je ne peux que parler de l'effet constaté chez des participants que ça peut avoir. Donc ce mélange, c'est presque toujours le cas. Il y a vraiment un paradoxe qui émerge. Donc, il y a une réaction à la fois d'être horripilé et puis très, très attiré par quelque chose qui est à la fois extrêmement beau et très...
On est dans la fascination, en fait.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est l'idée de basculer les spectateurs pour qu'on ne soit pas dans la complaisance et qu'on soit obligé de réfléchir et d'essayer de comprendre pourquoi on a ces réactions si contradictoire. Je crois que c'est plus cette idée de nous troubler
oui.
Sur un plan presque ontologique, qu'on soit, on se remet en question. Quel est notre rapport à l'eau?
Oui, et puis on est des êtres faits d'eau avant tout aussi, donc voilà, on ne peut pas vraiment continuer de vivre des vies en pensant que nous avons des corps solides et qu'on n'est pas nous-mêmes faits d'eau.
Et du coup, ça change un peu les dynamiques d'aller au théâtre et rester bien distincte de ce qui se passe sur la scène. Et justement, des pièces qui ont lieu dans des endroits inhabituels ou là où on ne s'attend pas forcément à assister à des spectacles. Aussi, ça fait partie de cet élément un peu troublant et de demander, mais quelle est notre place? Quelle est notre relation? Est-ce qu'on n'est pas aussi acteur et participant dans le spectacle plus large qui est... nos constructions.
Et je pense que quand même, il y a quelque chose d'éprouvant, surtout dans ces œuvres qui mettent en scène soit la noyade et la distorsion, ces musiciens qui jouent sous l'eau. Elles nous confrontent quand même à un monde qui est en train de changer, à une vitesse qu'on peut difficilement. On pourrait essayer de décélérer un petit peu, mais on ne le fait pas. Et je pense qu'il y a quand même, en voyant toutes ces œuvres qui fondent de façon inéluctable sous nos yeux, ça nous renvoie évidemment à la montée des eaux, mais bien sûr à la menace de notre propre disparition, et pas que de la nôtre, de toutes ces espèces dont les capacités de continuer à habiter leurs écosystèmes marins ou littoraux sont déjà menacées.
J'ai l'impression que dans la question du rapport à l'eau, il y a aussi la question du rapport à l'autre, en tant que, enfin, l'autre humain, l'autre. Tu nous avais parlé aussi de la culture des sirènes et des tritons. Pour moi, il y a une idée un peu queer derrière ça aussi, enfin, l'idée de un peu brouiller les catégories. Mmh. J'ai l'impression que l'eau, elle nous amène aussi sur ce terrain-là, de devenir plus ouvert aux relations, de se définir plus par la relation que par une nature intrinsèque.
Oui, tout à fait. Et puis là, on peut citer Melody Jew qui a remarqué qu'en fait, juste le fait de se mettre dans l'eau nous désoriente. Donc, on est obligé de se repositionner, d'essayer de recalibrer où est-ce qu'on est, comment je me positionne. On n'a plus les capacités, les mêmes capacités qu'on a en dehors de l'eau.
On en a d'autres aussi.
On en a d'autres. Exactement. Oui, tout à fait. On est vraiment transformé par le milieu. Et vu que, comme tu as dit, on va de plus en plus dans l'eau, et on doit forcément repenser, changer nos relations aux autres et aux éléments qui nous entourent, l'eau peut être une façon de vraiment se jeter dans le bain et nous demander peut-être de façon très interpellante, très frappante, de regarder autrement. Bené, je sais que tu travailles aussi sur les différentes sensations sensorielles des animaux aquatiques, des espèces aquatiques, qui aussi peut être une très bonne façon d'essayer de sortir de nos bulles anthropocentrées.
Oui, c'est vrai que tous ces mythes, toutes ces légendes qui mettent en scène des chimères à moitié humaines, à moitié mammifères aquatiques, viennent, comme souvent, troubler un petit peu les catégories avec lesquelles on se pense complètement extrait de l'eau, complètement extrait de l'océan, alors que quand même toutes les formes de vie terrestre remontent dans un passé très très lointain à ces mêmes formes de vie marine. Et voilà, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est comment un petit peu, à partir du moment où on travaille avec l'eau, ça vient effectivement troubler, déstabiliser tout ce qu'on a cru pouvoir penser de façon binaire. Hein, tu disais queer tout à l'heure, c'est vraiment ça. Voilà.
Oui, Lucie, tu as parlé des pratiques collectives qui sont aussi en pleine explosion un peu partout, de s'émerger dans l'eau, collectivement, en justement jouant avec l'adaptabilité, la transformation de nos corps, comment on peut s'adapter mieux à des milieux aquatiques, avec justement cette espèce d'ouverture vers une pléthore de formes qui nous invite à justement, comme tu as dit, mettre en question nos catégories que nous croyons très fixes. Mais en plus, donc, des œuvres, des artistes et la pratique artistique, il y a aussi une montée de pratiques collectives, de nage, de toutes sortes, plus ou moins performatives, qui nous invitent à aller explorer cette matière qui couvre quand même 70% de notre planète et qu'on connaît très mal. Et aussi, ce que ça peut nous apporter, c'est que le fait de se familiariser et de se sentir à l'aise dans l'eau, change un peu la représentation classique en Occident de l'océan comme un endroit plein de dangers et des créatures très féroces et cette insondabilité de la mer profonde, enfin l'océan profond qu'on ne peut pas vraiment connaître ou expérimenter, au lieu de le voir comme, tu as dit, notre foyer ancestral, là où on vient. Donc, on a peut-être, enfin, sans doute plus la tendance à s'occuper de quelque chose auquel on se sent intimement lié que un endroit rempli de créatures aliens et de dangers.
Oui, ça me fait penser, donc avant de m'installer à Nantes, j'étais à Perpignan et j'ai vu de plus en plus d'amis qui se sont mis à la pratique du longe-côte. Et je me dis, bah oui, c'est sans doute une activité qui va gagner de plus en plus à mesure que les stations de ski vont fermer. Et là, c'est quand même une activité qui est accessible pour beaucoup de gens, beaucoup plus financièrement, bien sûr, que la pratique du ski, qui est réservée à une petite élite, à happy few. Hein. Mm. Et peut-être pour terminer, je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est jour de fête, puisque ça n'a pas fait encore l'objet d'un article dans Le Monde, mais apparemment, Paul Watson a été libéré, remis en liberté après de longs mois en prison. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui consacre toute sa vie à la défense des océans et qui a permis de sauver la vie. Je crois qu'on compte en milliers de baleines notamment, mais aussi de phoques et de tout un tas d'autres formes de vie marine. Donc voilà, c'est un beau jour aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Bien, je crois que le moment est arrivé de clore ce deuxième épisode du podcast Seymour Blue. Et Anna, on te remercie profondément d'être venue jusqu'à nous, à Nantes, pour pouvoir organiser, prendre part à ce podcast.
Et le plaisir a été tout pour moi. C'était vraiment super d'échanger avec vous.
Ce podcast est enregistré avec le soutien de et dans les locaux de la MSH Ange Guépin à Nantes, grâce à l'appui pour la technique de Goulven Labatte. Il est également soutenu par l'UA, l'Université d'Angers, et il est rattaché au séminaire de recherche interdisciplinaire Seymour Blue, et dont les co-porteureuses, Béné Meillon, moi-même donc, et William Pilot, appartiennent au laboratoire Le Trois Lames et l'UMR TEMOS. Pour plus de renseignements sur notre séminaire, ses objectifs, ses activités de recherche, ses nombreux partenaires scientifiques et soutiens financiers à Angers, Nantes et ailleurs, rendez-vous sur le site écopoétique hypothèse.org où vous trouverez un onglet Seymour Blue assorti d'un menu déroulant qui vous permettra de naviguer en ligne et de prendre le large avec nous vers des imaginaires plus bleus. On vous souhaite du bon vent dans les voiles ou de prendre une bonne respiration pour plonger avec nous sous la surface de l'océan et dans des mondes aquatiques.